France Culture.
18h sur France Culture, le journal Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Les Palestiniens peuvent de nouveau circuler librement entre le nord et le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne s'est retirée aujourd'hui du corridor de Netzarim qui séparait l'enclave en deux. Un retrait prévu par l'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. De la Startup Nation à la course à l'intelligence artificielle. Alors que débute demain à Paris le sommet sur l'IA, Emmanuel Macron détaille déjà ses ambitions dans les médias. Des médias et des réseaux sociaux qui ont permis à Violette d'Orange de populariser un peu plus le Vendée Globe. À 23 ans, elle est devenue aujourd'hui la plus jeune navigatrice à boucler ce tour du monde à la voile et la skippeuse la plus suivie. C'est un couloir long de 7 km qui coupe la bande de Gaza d'est en ouest et occupé par l'armée israélienne depuis le début de son offensive après l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Le couloir de Netzarim a été entièrement évacué par les troupes israéliennes aujourd'hui, permettant de nouveau aux Palestiniens de circuler entre le nord et le sud de l'enclave. Ce retrait de l'armée israélienne prévu dans la première phase de l'accord de trêve entre le Hamas et Israël est donc un signe de détente, même si cette trêve reste très fragile. Étienne Monin.
Sur une vidéo tournée depuis une voiture, on voit des collines de gravats à perte de vue. Il ne reste plus aucun bâtiment debout dans cette ancienne zone militarisée de plus de 6 km de long sur au moins 2 km de large. Depuis presque un an, cette bande de terre coupe hermétiquement l'enclave en deux. Au sud de la ville de Gaza, de la frontière israélienne jusqu'à la mer, le retrait de l'armée permet donc aux habitants de retrouver une véritable liberté de circulation, dit Nedal, interrogé par WhatsApp depuis le secteur nord.
Là, c'est vraiment la fin des restrictions de mouvement entre le sud et le nord de la bande de Gaza. Maintenant, les gens peuvent circuler librement entre les deux parties.
Dans ce corridor, l'armée israélienne avait monté des bases avancées pour ses opérations. Elle est maintenant positionnée dans la zone tampon contre sa frontière. Son recul est un signe positif au moment où des doutes s'expriment sur la deuxième phase de négociation, estime Nedal.
Pour les Palestiniens, c'est vraiment l'espoir que la guerre est finie et que la guerre ne revient plus jamais.
Il y a maintenant des embouteillages sur la grande route qui traverse le corridor en direction du nord. D'après l'ONU, plus d'un demi-million de personnes sont déjà remontées depuis le début du cessez-le-feu. C'est presque la moitié de la population de ce secteur avant la guerre.
Et dans le même temps, les déclarations du Premier ministre israélien continuent de fragiliser l'accord de trêve, alors que les négociations doivent reprendre demain à Doha. Benjamin Netanyahou assure qu'Israël est prêt à faire le travail pour mettre en œuvre le plan de Donald Trump, à savoir déplacer les Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie et transformer l'enclave en Riviera du Moyen-Orient sous contrôle américain. Des propos tenus lors d'un entretien à Fox News aux États-Unis et qui font suite à une autre interview dans laquelle le Premier ministre israélien suggère la création d'un État palestinien sur le sol saoudien. Des propos inacceptables et déconnectés de la réalité qui relèvent de simples fantasmes ou illusions, dénonce aujourd'hui la Ligue arabe. La création d'un État palestinien en dehors de Gaza et de la Cisjordanie est en effet une ligne rouge pour les pays arabes, dont l'Égypte, qui va organiser un sommet d'urgence sur la question palestinienne le 27 février prochain, à la demande des Palestiniens. Tandis qu'en Europe, les gouvernements européens, conservateurs comme sociaux-démocrates, espèrent toujours endiguer l'influence croissante des partis d'extrême droite en s'emparant de leur marotte, l'immigration. C'est aujourd'hui le cas au Royaume-Uni, gouverné depuis juillet dernier par les travaillistes. Or, une partie des députés du Labour appelle aujourd'hui Downing Street à en faire davantage sur le dossier migratoire. Emeline Vaughan.
Une quarantaine de députés travaillistes ont mis sur pied un groupe de pression et réclament un entretien avec le Premier ministre Keir Starmer. Leur demande principale, plus de communication sur ce que font les autorités contre l'immigration illégale, par exemple davantage de publicité autour des expulsions de clandestins. Leur motivation n'est pas tant idéologique que stratégique. La plupart de ces députés viennent de circonscriptions où le parti d'extrême droite Réforme, mené par Nigel Farage, est arrivé en deuxième position. Or, depuis les élections de juillet, la formation progresse dans les sondages. Elle est même arrivée en tête des intentions de vote en début de semaine. Les élus se sentent donc menacés et souhaitent que l'exécutif joue sur le terrain fétiche de Réforme. Le groupe de pression réclame aussi plus d'investissements pour leur région, majoritairement le centre et le nord de l'Angleterre, assez défavorisés pour enrayer le sentiment de délaissement qui pousserait, selon eux, les électeurs à voter Réforme, qui n'a encore jamais gouverné. Downing Street n'a pas encore répondu à la demande de réunion, mais a déjà envoyé des conseillers auprès de certains députés pour les aider à angler leur discours afin de contrer la montée en influence du Parti nationaliste.
Emeline Vin, correspondante de France Culture à Londres. L'immigration, qui ne sera pas source de conflit au sein du gouvernement en France, veut croire François Bayrou, qui confirme dans les colonnes du Parisien vouloir ouvrir un débat approfondi sur l'identité nationale. Quant à la question migratoire, le chef du gouvernement estime qu'elle mérite d'être traitée, non dans l'affrontement systématique, mais dans la compréhension mutuelle. Mais ces ministres sont bien incapables de parler d'une même voix sur ce dossier. Quand ceux de l'Intérieur et de la Justice, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, appellent à durcir les conditions du droit du sol, Éric Lombard estime de son côté qu'il n'y a pas de raison de le faire. Pour le ministre de l'Économie, le dispositif législatif actuel est tout à fait satisfaisant, a-t-il déclaré sur RTL ce midi. Le président de la République se prépare, lui, à l'ouverture du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Il débute demain à Paris, où des chefs de gouvernement et patrons de la tech discuteront durant deux jours des enjeux diplomatiques, politiques, économiques, éthiques ou encore juridiques de cette révolution technologique. Bonsoir Nicolas Ballu.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous.
Emmanuel Macron, qui cherche à affirmer le poids de la France dans la course à l'IA, et fait déjà quelques annonces.
Oui, après deux journées scientifiques et un week-end culturel, cet avant-sommet diplomatique est également marqué par une intense présence de celui que l'on appelle depuis le début de son premier mandat, le président de la Startup Nation, c'est-à-dire s'il est dans son élément. Alors, interview classique ce soir sur France 2, petite vidéo humoristique à l'usage des jeunes aujourd'hui. Il n'a pas oublié qu'il s'informe de plus en plus via Internet et de moins en moins via les médias traditionnels. Interview au journal Le Parisien. Aujourd'hui, tout est possible si nous avons une stratégie, estime le président. Les optimistes retiendront la première partie de la phrase, les autres que l'Europe n'a toujours pas de stratégie sur le sujet. Alors, il s'agira pour le chef de l'État de montrer avec ce sommet que l'Union européenne se saisit du dossier. Il invoque déjà le patriotisme économique et européen. Montrer également que la France est bel et bien sur la carte mondiale de l'intelligence artificielle. Le pays compte actuellement plus de 300 centres de données et se place au 6e rang mondial des pays qui en accueillent le plus. Et bien souvent, désormais, les annonces d'investissement précèdent le sommet lui-même. Donc, investissement dans des data centers en France, des Émirats arabes unis de plusieurs dizaines de milliards d'euros, du fonds canadien Brookfield de 20 milliards de dollars dans des centres de données, la France ayant déjà annoncé que 35 sites étaient prêts à l'emploi pour accueillir de tels centres. Au-delà de l'enthousiasme affiché et des ambitions, les questions sont évidemment innombrables sur l'emploi, les données personnelles, la désinformation, la propriété intellectuelle, les problèmes écologiques que posent ces data centers. Et la demande de régulation est forte, notamment en Europe. Le président promet une déclaration de fin de sommet avec, dit-il, je cite, « des principes forts ».
Nicolas Ballu, et je vous invite à retrouver notre série audio de la rédaction de France Culture, l'intelligence artificielle, une arme géopolitique, une série en 6 volets, écoutez sur notre site et sur l'application Radio France. 90 jours, 22 heures et 37 minutes. C'est le temps qu'il aura fallu à Violette d'Orange pour boucler son tour du monde à la voile. Âgée de 23 ans, la Benjamine du Vendée Globe a franchi la ligne d'arrivée en fin de matinée au Sable d'Olonne devant des milliers de spectateurs. Et si elle termine à la 25e position, elle a certainement remporté la première place de la popularité. Avec près de 580 000 abonnés sur Instagram, Violette d'Orange a partagé au quotidien son périple et fait connaître un nouveau public cette course au large, devenue du coup moins solitaire. Emma Voglimacci.
Instagram est son carnet de bord et son journal intime. Violette d'Orange partage tout à ses abonnés. Elle évoque ses joies.
Je vais aller manger dehors parce que c'est magnifique.
Mais aussi ses peurs et mauvaises expériences.
J'y suis allée, je suis montée dans le mât tout en haut. C'était horrible. Franchement, c'était un cauchemar.
Elle partage même ses cadeaux de Noël.
Oh non, c'est trop mignon. C'est des chaussettes avec tous mes amis. J'adore !
Violette d'Orange n'est pas la première à le faire. Selon François-Xavier de Crécy, rédacteur en chef de Voile Magazine, ça fait déjà quelques années que les jeunes sportifs ont installé cette nouvelle norme.
Eux maîtrisent les codes du web et de la vidéo, ce qui n'est pas le cas de leurs aînés. Et on a vu la puissance de ces outils. C'est quelque chose qui parle aussi aux sponsors. Et ça les a beaucoup aidés à émerger et à trouver des partenaires et donc à avoir des bateaux performants.
Pour le journaliste spécialisé, ce Vendée Globe 2.0 change la pratique de cette course en solitaire.
Les marins se parlent entre eux, parlent à leurs proches. Psychologiquement, ils ne sont plus dans une situation de coureurs solitaires comme l'étaient leurs aînés en fait. Alors il y a toujours un moment où ils puisent dans leurs ressources, de toute façon ils sont malgré tout tout seuls sur le bateau. Mais c'est pas tout à fait la même chose.
Avec les réseaux sociaux, la course évolue. Les coureurs peuvent se parler entre eux et s'échanger des indications de trajet ou de météo. Résultat, le Vendée Globe doit s'adapter, accepter cette nouvelle réalité ou trouver des solutions pour l'empêcher.
La météo, justement, avec une nouvelle perturbation qui apportera de la pluie demain au nord de la Loire, des pluies qui se transformeront en flocons dans les terres en Bretagne et Normandie. Le ciel restera nuageux également au sud. Les températures au réveil varient entre 1 et 10 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Martin Descloseaux, Ludovic Auger à la technique.